Bonjour à tous, et je suppose que vous ne le voyez pas forcément, mais je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Arrêt sur image. Alors, deuxième vague ou pas deuxième vague, pour tous ceux qui reprennent contact avec l'information dans un fouillis de statistiques sur le coronavirus, un fouillis de consignes, de préconisations et d'interdictions, une tentative, ça y est, comment déjà à me serrer, une tentative de clarification s'imposait, clarification que nous allons mener masqué donc sur ce plateau, comme vous l'avez vu. Et nous allons vous expliquer pourquoi, en même temps que nous en ferons en temps réel la difficulté. Nous expérimenterons la difficulté de l'exercice. Alors, nous le faisons avec une nouvelle équipière, Julie Lemestre. Julie, vous vous présentez sans masque quand même pour que les abonnés d'Arrêt sur image, on va vous voir, pour que les abonnés d'Arrêt sur image, disais-je, fasse connaissance avec vous et voit peut-être au moins une fois votre visage, mais vous allez vite rejoindre, tout de suite, là maintenant d'ailleurs, le petit groupe des masqués de ce plateau, en même temps que vous nous faites une démonstration de votre virtuosité à nouer un masque, ce qui va devenir une qualité professionnelle importante exigée des journalistes. Et hop, c'est réglé en moins de 5 secondes. Bravo, génial. Et vous pouvez donc maintenant nous présenter nos trois invités.
Oui, donc Yves Godin, vous êtes virologue et vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de l'Université Paris-Saclay. Vous avez pris la parole à plusieurs reprises cette année dans les médias pour évoquer le coronavirus, ses modes de transmission, et vous étiez notamment inquiet dès avril de l'émergence d'une deuxième vague à l'automne. Laurent Toubiana, vous êtes docteur en physique et épidémiologue, vous êtes chercheur à l'INSERM et directeur de l'IRSAN, c'est-à-dire l'Institut de recherche et pour la valorisation des données de santé que vous avez fondé. Vous avez eu, dans plusieurs interventions médiatiques, un positionnement à contre-courant en considérant que la réponse à la crise du coronavirus est disproportionnée. Et Jocelyn Rhode, donc en duplex avec nous depuis Rennes, vous êtes chercheur en psychologie sociale à l'École des hautes études en santé publique à Rennes et également à l'Unité des virus émergents de Marseille. Vous êtes spécialisé dans les réponses des populations aux controverses et aux alertes sanitaires. Et vous avez notamment travaillé récemment sur l'attitude des Français face à l'épidémie de coronavirus.
Voilà, et les questions existentielles que nous nous sommes posées pendant la préparation de cette émission sur le port du masque sur le plateau, et j'imagine que vous en imaginez facilement l'intensité, ces questions, on n'a pas été les seuls à se les poser, Julie, et on va commencer l'émission par là. Toutes les émissions de plateau de la télévision se les posent.
Et oui, l'épidémie de coronavirus nous confronte à quelque chose dont nous n'avions pas l'habitude, c'est-à-dire l'évolution des connaissances scientifiques en temps réel. Jusque récemment, par exemple, l'accent avait été mis, pour la prévention, sur le fait de tenir des distanciations physiques d'au moins un mètre. Mais aujourd'hui, on apprend, on nous dit que le Covid-19 se transmet aussi dans les espaces confinés et le masque va être obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre. À BFM, comme chez nous, dès cette rentrée, il a fallu se justifier et expliquer aux téléspectateurs pourquoi les journalistes ne portaient pas de masque en plateau.
Vous êtes très nombreux à nous interpeller sur le masque pour nous, le port du masque qui va devenir obligatoire en entreprise. Pourquoi est-ce qu'on ne le porte pas sur les plateaux TV? Ça, c'est la version basique de la question. C'est plus ou moins fleuri, vous imaginez, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que le masque. Il faut peut-être dire que le masque, c'est un geste barrière supplémentaire. Et encore une fois, on n'a pas attendu ce nouveau protocole pour prendre des mesures drastiques sur BFM TV. Vous nous avez suivis pendant le confinement. Vous avez même, j'allais dire, suivi littéralement l'évolution du studio. Je ne sais pas si on peut voir, mais on est loin déjà tous les deux. On est à 2 mètres. Avant, on était beaucoup plus nombreux en plateau. Et regardez, il y a cette forme en plexiglas, voilà, qui a été rajoutée pour justement nous éloigner les uns des autres. Et puis, les mesures ne commencent pas au studio. Il y a évidemment des contrôles qui sont faits à l'entrée, en dehors, jusqu'à la porte du plateau. Tout le monde a un masque. En régie, tout le monde a un masque. C'est un espace beaucoup plus réduit. Il y a des désinfections, évidemment, systématiques. On est moins nombreux. Et puis, petite devinette, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, les téléspectateurs qui nous regardent avec les plans serrés. Bruce, il fait combien de mètres carrés le studio, là?
Aucune idée, mais allez-y, dites-moi.
200 mètres carrés. 200 mètres carrés, 6 mètres de hauteur, ça joue aussi. Et puis, on revient à ce que disait le professeur Fontanet, le plus important, c'est la ventilation.
Ah oui.
Et il faut bien imaginer que tous les circuits de la clim ont été modifiés. On n'a pas de fenêtres, c'est vrai, mais c'est 100% air frais maintenant. C'est de l'air qui vient de l'extérieur. Et c'est efficace, semble-t-il, parce qu'on travaille tous depuis le début du confinement. Et on n'a pas eu cluster au sein de la rédaction, on n'a pas eu d'explosion, pourtant on était vigilants et on est surveillés à la fois par nos téléspectateurs et puis par tous ces soignants qui défilent en plateau, évidemment.
Mais surveillés par tous ces soignants qui défilent en plateau, je vous ai vu démentir en direct les propos de cette journaliste de BFM.
Oui, je ne vais pas m'attirer des ennuis avec BFM, mais c'est vrai que bon, dans les couloirs de la rédaction, moi j'ai pas vu les gens porter le masque. Bon, mais c'est pas encore une fois, il s'agit pas de stigmatiser. Hein, il s'agit peut-être de réexpliquer pourquoi le port du masque est important quand on a une maladie respiratoire.
Voilà, et c'est ce qu'on va faire dans l'émission. Voilà. Mais en tout cas, votre témoignage est intéressant. Suite de cette explication de BFM, Julie.
Oui, donc on l'a vu, tout va bien à BFM, le plateau a été agrandi, l'air arrive de l'extérieur, mais il y a un autre vrai problème, c'est celui de réaliser des bonnes interviews avec des masques. On a donc une démonstration en mimique et en son.
Depuis le début de cette crise, BFM TV a continué à proposer des émissions en direct, non-stop.
Bah oui, il y a de l'information, il y a de la pédagogie qui est plus nécessaire que jamais.
On s'est pas arrêté.
Et imaginez avec un masque, c'est Jean-Jacques Bourdin ce matin qui disait à Arnaud Fontanet, imaginez, on peut pas faire une bonne interview masquée.
Compliqué.
Les politiques, dit-il, seront masqués, seront cachés. On fait passer beaucoup de choses par le regard, par les mimiques aussi, sans parler des téléspectateurs sourds et malentendants pour qui on fait des programmes et qui lisent sur les lèvres. Comment vous faites ? Attendez, on va quand même montrer la démonstration. Enfin, on va faire la démonstration de ce que ça donne en plateau parce qu'on l'a notre masque. Hein. On le met jusqu'ici.
Alors attendez.
Voilà, déjà c'est magnifique et puis c'est très rassurant. Ce serait une première hein, si sur les plateaux on se met tous à le porter. Ce serait une première dans le monde, même en Chine, au pire de la crise, ils ne l'ont pas fait tous masqués. Après vous entendez bien qu'il y a un problème quand même de son, de diction. Il va falloir sacrément articuler si on en arrive là.
Non,
alors, on va faire des économies de maquillage. En revanche, il y a intérêt à bien articuler.
Non mais bon, voilà, effectivement. Non mais... Dans l'absolu, oui, on pourrait, après tout. Ce n'est pas ce que nous faisons comme travail.
En termes de précaution, on pourrait,
bien sûr. Ce que nous faisons comme travail n'est pas plus difficile que quelqu'un qui est dans un bureau, qui doit travailler toute la journée, etc. Mais, pour ce qui concerne, c'est exactement ce que vous avez dit, Roselyne, eh bien, la meilleure compréhension de ce qu'exprime un invité, l'émotion qui va pouvoir passer dans un visage, etc. Ça paraît quand même difficile.
Alors, on va venir tout au long de cette émission sur les aspects scientifiques de la question, est-ce que ce port du masque est justifié ou pas. Mais d'abord, simplement, sur le plan de la communication et de l'image, est-ce que de la part des gens qui parlent dans la télévision, qui parlent dans le poste, Jocelyn Rhaude, c'est un débat anecdotique ou est-ce que c'est important ?
Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, en fait, les médias nous renvoient une image qui est un peu à contre-courant de ce que peut être l'opinion majoritaire aujourd'hui en France. Ce qu'on a vu, en fait, et d'ailleurs contre la parole gouvernementale du début, hein, j'aimerais rappeler que quand même au début, le masque n'a pas été recommandé parce qu'il était considéré soit comme utile, soit comme inefficace, et que les Français n'ont pas cru à ce moment-là la parole publique, et qu'il y a eu dès le départ en fait, un sentiment que le masque pouvait être à la fois utile et très efficace pour maîtriser la pandémie. Et ça, on l'a vu dès les premières semaines des enquêtes qui ont été menées au début du confinement, jusqu'à ces dernières semaines, un très très haut niveau de confiance dans l'efficacité du masque. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est la capacité en fait, de notre société à mettre en exergue ou à débattre sur des questions qui sont en fait extrêmement aujourd'hui minoritaires dans l'opinion publique et qui, à mon avis, reflètent des minorités qui peuvent être très actives, très visibles, mais qui, en tout cas, ne reflètent pas la réalité sociologique du pays, qui est qu'aujourd'hui, 75% à peu près des gens sont favorables à l'obligation du port du masque à l'extérieur, par exemple. Et d'autre part, on a aujourd'hui un taux d'utilisateurs du masque qui est supérieur à 95% de notre pays. Alors, pas forcément toujours dans les lieux ouverts, mais en tout cas, si vous faites vous-même l'expérience dans les supermarchés ou dans les magasins, par exemple, vous verrez que la quasi-totalité des gens portent le masque. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire de la santé publique, puisque j'aimerais rappeler quand même que de très nombreuses mesures ont mis plusieurs décennies à s'imposer dans notre pays, ce qui n'a pas été le cas du masque, qui a été largement, massivement et rapidement utilisé et généralisé dans notre pays.
Alors justement, dans ce contexte, alors vous dites que la grande majorité des gens ne se posent pas de questions et se disent que simplement le masque, c'est efficace. Et voir les journalistes de télévision effectivement débattre, ergoter sur ce sujet sans fin, ça produit quel effet, en fait, selon vous, sur les téléspectateurs, sur le public ?
Si vous voulez, ça donne l'impression que la question est extrêmement discutable ou débattue dans la société. Hein, si on discute avec des gens qui ne sont pas des spécialistes de ces questions, qui n'ont pas accès comme nous aux données des enquêtes qui sont réalisées sur le sujet, on peut avoir l'impression que c'est une grande controverse nationale dont la France a le secret. Hein, c'est pas la seule. On est assez fort pour rendre visibles des phénomènes qui sont soit ultra-minoritaires, soit qui soient en voie de règlement, en tout cas dans les pratiques sociales, peut-être qu'on peut les observer.
Est-ce que de voir comme ça, alors on ne sait pas s'ils vont le porter ou pas, on ne sait pas si tous nos confrères de la télévision vont suivre l'exemple glorieux d'Arrêt sur Image et tenir pendant plus d'une heure masqué, si vous voulez, personne ne le sait encore, mais dans le cas où ce ne serait pas le cas, est-ce que ça pourrait, selon vous, avoir un effet démobilisateur sur le public ?
Alors, je ne le crois pas parce que les gens ne sont pas bêtes. Hein. Ils ont quand même compris les enjeux autour des contacts rapprochés. Ça, c'est quelque chose que montrent les différentes enquêtes. Et par contre, ce qu'ils peuvent avoir comme sentiment, c'est que cette question est débattue. Et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique puisqu'on peut avoir un imaginaire collectif qui va s'inscrire autour de la question de la norme sociale. On sait qu'aujourd'hui, le masque est en train de devenir une norme sociale, comme par exemple ne pas fumer à l'intérieur, comme c'était le cas il y a plusieurs années. Et ce qu'on voit, par exemple, je vais témoigner une expérience personnelle. J'étais sur l'île de Bréa pendant mes vacances.
En Bretagne.
Et je vois masque recommandé. Masque recommandé, ça ne veut pas dire masque obligatoire. Et pourtant, je me suis fait interpeller à plusieurs reprises par des gens qui me disaient « Monsieur, le masque est obligatoire ». Vous voyez, on voit comment tout d'un coup, enfin progressivement, le masque est en train de devenir collectivement une norme sociale dont le non-respect en fait, est de moins en moins toléré ou supporté par la majorité des gens. Et ça peut évidemment créer des petites tensions qui sont largement relayées. Je ne crois pas qu'il faille voir dans le masque la cause des incidents qu'on peut relater dans les médias. À mon avis, c'est juste un prétexte, comme il y aurait d'autres prétextes, comme ne pas donner une cigarette ou quelque chose d'autre.
Alors, on va en venir aux aspects scientifiques maintenant, et on va introduire la question à travers l'opinion très tranchée d'un autre journaliste qui lui aussi considère que le problème se pose vraiment.
Il s'agit de Jean Quatremer, le correspondant du journal Libération à Bruxelles, qui est, lui, contre le masque. Il a choisi sur LCI, le 20 août dernier, de le montrer en images.
Pourquoi vous avez le masque alors que vous estimez qu'on en met trop ?
Je mets le masque pour montrer aux téléspectateurs ce qui nous attend, la société dans laquelle nous allons vivre. Parce que jusqu'à... Vous m'entendez ? Parce que moi, j'ai même du mal à parler, j'ai même du mal à respirer. C'est un masque FFP2. Qui me protège, qui protège les autres, mais qui me protège aussi des autres. Et au fond, c'est le meilleur masque qu'on puisse porter. Je peux vous assurer que c'est très pénible à porter. Or, c'est vers ça qu'on se dirige, vers une société où on ne verra plus nos visages, où nos enfants même ne verront que rarement nos visages, uniquement dans l'espace privé, et encore jusqu'à présent. Je vous signale qu'en Belgique, par exemple, on a restreint ce qu'on appelle la bulle privée à 5 personnes maximum, en dehors même de la famille. Jusqu'où ira-t-on dans ce type de mesure ? Je vais l'enlever parce que sinon, je vais m'étouffer. Donc, vous m'excuserez, la solidarité va cesser à cet instant. Donc, simplement, au jour d'aujourd'hui, et c'est ce que disait très bien Roland Kayrol tout à l'heure, il n'y a aucune preuve que le port du masque dans un espace non confiné, c'est-à-dire en extérieur, soit nécessaire. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre que l'on puisse être contaminé à l'extérieur.
Alors, tout ça nous amène évidemment sur l'aspect scientifique du sujet. Est-ce que ce que vient de dire Quatremer est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que le port du masque en extérieur soit utile ?
À partir du moment... Alors, en fait, on revient toujours aux formes de contamination. Hein. C'est un virus respiratoire. Donc, on est contaminé par les gouttelettes hein, qu'on émet, qui peuvent être grosses, on va dire le postillon, pour simplifier, ou beaucoup plus petites. Et c'est ça qui va faire les aérosols qui vont flotter longtemps dans l'air.
Voilà. Et on voit pendant que vous parlez une formidable infographie parisien.
Sauf que cette infographie, elle est fausse.
Ah, ça
elle est fausse.
Bien, ça
il n'y a
bien.
Pas de distance de 4 mètres pour les aérosols. Les aérosols, dans une pièce comme on est là, vont flotter longtemps. En fait, plus les gouttelettes sont grosses, plus elles sédimentent, en fait, et elles vont s'écraser sur le sol, éventuellement contaminer les surfaces. le virus ne survit pas, l'infectiosité du virus ne survit pas très longtemps. Enfin, il y a un petit peu de survie, mais on perd très vite. En quelques heures, on a perdu 3 logs, c'est-à-dire un facteur 1000 en infectiosité, vous voyez. Donc, ça retombe très vite. Par contre, dans les aérosols, dans les gouttelettes, le virus reste parfaitement, je dirais, capable d'infecter les gens. Donc, en fait, les aérosols, c'est le problème, mais à l'extérieur, les aérosols sont immédiatement dispersés dans un volume infini. Donc, à l'extérieur, les aérosols sont quasiment inexistants. En revanche, on va se retrouver effectivement avec la possibilité de se contaminer par un postillon, c'est-à-dire une grosse goutelette.
Si on peut revoir l'infographie qui va nous montrer la distance de nuisance du postillon, alors est-ce que cette distance de nuisance du postillon, telle que décrite par Le Parisien, entre 1,50 m et 2 m, est-ce que ça c'est juste ?
Alors oui, mais évidemment, quand on parle de phénomène physique, on est toujours sur un continuum. Hein, il y a des gouttelettes de taille intermédiaire. Voilà, c'est. Mais non, mais évidemment, oh évidemment, évidemment, vous allez de quelques micromètres jusque la moitié d'un millimètre. Hein, quand vous faites parfois des gros postillons, vous voyez, bon, c'est.
Un micromètre, c'est combien ?
Alors, un micromètre, c'est un millionième de mètre. C'est-à-dire, c'est un millième de millimètre. Et on sait que ces micro-gouttelettes qu'on voit l'hiver, hein, quand vous parlez dehors, cette buée.
Hein, ah, c'est la buée, en fait.
Ben, ce sont ce qu'on appelle la buée, mais ce sont des gouttelettes de quelques dizaines de microns, je veux dire. Voilà.
Donc, mais attendez-moi, c'est la première fois que j'entends que ce qu'on appelle les aérosols, c'est la buée de l'hiver.
Les aérosols respiratoires, vous les voyez l'hiver parce qu'il fait froid, il y a de la condensation et immédiatement, ces micro-gouttelettes ont tendance à s'assécher. Donc vous les voyez l'hiver, vous ne les voyez pas l'été. Mais c'est, voilà. Donc vous voyez, ça flotte dans l'air et voilà.
Bon, pour terminer,
la dernière chose.
Masque obligatoire en extérieur, par exemple, la mesure
non,
qui.
Non, mais non, c'est, enfin voilà.
Non, mais c'est la mesure qui vient d'être annoncée, par exemple.
Oui, à Paris.
À Paris.
Pour moi, c'est une mesure qui est excessive. Mais on voit bien qu'à partir du moment où on réglemente, on peut pas. Si on doit se baser sur un marché, on peut régler, mais il y a des endroits, c'est vrai, où la population va rester longtemps au contact. Par exemple, dans certains quartiers parisiens, on sait, enfin, dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers où les gens font un peu la fête, ce qui est très bien d'ailleurs. Et c'est là qu'effectivement, il y a une densité de population et donc la possibilité de postillonner, de se contaminer. Même là, les aérosols, à mon avis, sont pas très efficaces.
Bon, alors j'imagine que sur ce point précis, c'est-à-dire la justification scientifique, scientifique du port du masque en extérieur, vous allez tomber d'accord avec votre camarade.
Ah, nous sommes absolument d'accord là-dessus, pas de problème. La justification scientifique du port du masque est sans fondement scientifique.
En extérieur en extérieur ou pas seulement en extérieur ?
Écoutez, j'ai pas trop envie. Moi, personnellement, de parler de trop de cette question qui est une question technique. Oui, je sais, ça. Oui, mais c'est une question technique. Mais malheureusement, on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette. Moi, ce que j'aimerais pouvoir montrer, c'est avoir d'abord une démarche scientifique. Là, c'est une démarche sanitaire, si vous voulez. Le port du masque est une histoire sanitaire. Et ce n'est pas une histoire qui date d'hier.
Mais fondée sur des arguments scientifiques. Les préconisations
sanitaires. Oui, je vais vous dire les arguments scientifiques, une seconde, excusez-moi, les arguments scientifiques datent du 19e siècle. Les fameuses gouttelettes dont on parle depuis tout à l'heure s'appellent des gouttelettes de Flug, de Karl Flug, qui est un hygiéniste extrêmement connu. Oui. Et cet hygiéniste avait démontré que le port de la gaz permettait justement de diminuer la propagation des. Alors, c'était dans le cadre de d'une maladie extrêmement grave et qui est justement une maladie respiratoire qui est. Bon sang, je l'ai oublié, mais c'est pas très grave, ça va me revenir. Enfin, peu importe. C'est ce grand mouvement hygiéniste, c'est-à-dire lavage des mains, port du masque, date de la fin du 19e oui. siècle. Donc ce sont des choses extrêmement connues et ça a effectivement un fondement scientifique. Maintenant, ce qui n'a pas de fondement scientifique, c'est d'une part le fait qu'on puisse porter ce genre de choses dans la rue.
Parce qu'on doit le porter.
Oui, que nous
devions le porter. Donc on doit porter.
Que nous devions le porter. En réalité, moi j'ai envie de vous montrer quelque chose. Parce que j'ai envie de vous montrer cette courbe. Cette courbe, elle est extrêmement connue.
Alors, de quoi s'agit-il ?
C'est la courbe de la mortalité en France. qu'il y a eu pendant, pendant toute la période, depuis 6 mois.
Depuis le début de la pandémie en France.
Oui, depuis le début de la... Cette courbe, c'est ça. Il y a un pic ici, ce pic oui. arrive à peu près début avril. Et ce qu'on observe, en réalité, c'est que... et là, on passe à un autre sujet. C'est le sujet de pourquoi on porte...
Alors, attendez. Mais continuez à montrer vos courbes. Alors, la courbe rouge, c'est la mortalité. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un pic en avril et qu'ensuite, ça tend vers zéro. Et quelle est la courbe orange que
la
vous montrez ?
La courbe orange que je montre, c'est la courbe des porteurs de virus.
C'est-à-dire, c'est la courbe des contaminés.
Du nombre de cas détectés.
Du nombre de cas détectés. Et là, effectivement, vous nous montrez ce qu'on a bien compris depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est que autant le nombre de cas détectés remonte, autant le nombre de morts continue.
Autant le nombre de morts est totalement anecdotique, on va dire, c'est ça. Sous critique, on va dire.
Bon, alors cela dit, vous avez un peu anticipé sur la suite de l'émission. On va en parler plus tard. Non, mais sur la question des masques en extérieur, vous ne souhaitez pas. J'ai du mal à comprendre la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas donner votre point de vue.
Mon point de vue est un point de vue scientifique
et donc
pur. Je dis qu'il n'y a pas de fondement scientifique à ça. Maintenant, il y a des mesures sanitaires et ces mesures sanitaires, vous voyez bien que je les respecte. Je respecte ces mesures sanitaires. Elles n'ont pas de fondement scientifique et c'est ça que je discute. Voilà.
Pourquoi, si je peux me permettre, pourquoi les respectez-vous si vous n'y...
Parce que je suis un bon citoyen et que ce que l'on me dit de faire, je le fais jusqu'à une certaine limite, si vous voulez. Il va y avoir des limites, je pense, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je sortirai de mon domaine scientifique pour pouvoir dire ça.
Je comprends.
Mon domaine scientifique sert à quelque chose. Tenter d'apporter des éléments scientifiques pour que l'ensemble de la population comprenne et que l'ensemble de la population adopte des gestes en fonction de leur compréhension. Et donc mon but ici est d'abord de dédramatiser. Et c'est ça, dédramatisant.
Les deux courbes que vous nous montrez.
Et la deuxième chose, c'est que pour adopter une mesure, il faut la comprendre. Or, ce que mon rôle de scientifique est d'apporter des éléments pour comprendre. Et c'est ce que je vais essayer de faire tout le temps.
Alors, on va y revenir, mais simplement pour terminer avec les éléments psychologiques.
Je n'ai pas terminé avec mes cours.
Gardez-les précieusement. pour en terminer avec les aspects psychologiques de ces préconisations qui sont extrêmement importants. Alors, un certain nombre d'arguments sont donnés contre le port du masque par des adversaires résolus de ce port du masque, Julie.
Oui, tout à fait. Pour la préparation de cette émission, nous sommes intéressés aux personnes qui non seulement râlent contre le port du masque, mais qui en arrivent à se mobiliser contre, notamment dans des groupes sur Facebook. Nous avons ainsi découvert une médecin d'Alsace, Evan Guerrer, qui s'est faite connaître en diffusant de faux certificats médicaux dispensant du port du masque sur Facebook. Sur la vidéo que nous allons voir, tournée par ses partisans et publiée sur YouTube et sur sa page, elle répond, en compagnie de personnes qui soutiennent sa démarche, à des questions de journalistes présentées comme provenant de BFM.
Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Et moi, je suis un soignant, je ne peux pas autoriser ça.
Il y a d'autres choses à gérer. Je pense que juste savoir si on met le masque dedans, dehors, aux toilettes. Ou...
Voilà.
Vous pensez pas porter le masque ou pas?
Ah non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est angoissant. Enfin, on ne respire pas dedans.
Voilà, le masque, c'est moi qui... C'est un rituel des pédosataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? Donc je refuse que les enfants soient masqués à l'école.
Le militantisme anti-masque, Jocelyn Roth, c'est un phénomène que vous avez observé à d'autres occasions de préconisations sanitaires du style de celle-là. C'est quelque chose de nouveau. C'est les mêmes formes, ça prend d'autres formes.
Alors d'abord, c'est un grand classique de toutes les mesures de santé publique. Hein, c'est-à-dire que la santé publique, c'est presque toujours un arbitrage entre des libertés individuelles ou des libertés publiques d'un côté et la protection du bien public, c'est-à-dire de la santé de l'autre. Et pour arriver à cette protection du bien public, on a toujours tâtonné à travers l'histoire entre ce qu'on appelle d'un côté l'incitation et de l'autre l'obligation, pour simplifier, surveiller et punir, hein, pour reprendre les termes de Foucault. Et on a eu des exemples historiques où la prévention s'est avérée être un désastre parce qu'elle a été beaucoup trop coercitive. J'aimerais juste citer les années 30 avec la prohibition aux États-Unis ou l'interdiction de l'alcool, en fait, hein, dans certains États qu'on appelait les « dry states », donc les États secs, les États n'avaient pas le droit de boire d'alcool, ont provoqué d'une part une augmentation, une explosion de la criminalité et d'autre part une multiplication des intoxications éthyliques parce que les gens buvaient de l'alcool frelaté. Donc on a eu des expériences passées qui montraient qu'une prévention qui s'avérait être trop coercitive ou trop dure avait des effets pervers qui pouvaient être extrêmement importants. Dans d'autres cas, on a montré qu'une prévention qui était purement incitative ou persuasive ou, eh bien, pouvait être un échec complet parce que les gens n'avaient pas le sentiment que les enjeux étaient importants. Et là, on voit se diviser un petit peu l'Europe, si vous voulez, entre l'Europe pour simplifier protestante et l'Europe catholique, où on fait davantage appel à la responsabilité individuelle et à l'incitation dans les pays du Nord. Et dans le cas de la Covid-19, le cas suédois est probablement emblématique, hein, de cette attitude protestante où chacun doit être responsable dans la gestion de l'épidémie, dans la protection de sa propre santé et de la santé de la population, par une approche plutôt des pays du sud de l'Europe, l'Italie, la France, l'Espagne, dans laquelle le côté directif et coercitif est beaucoup plus présent. Et on a vu comment les confinements ont été beaucoup plus durs de manière générale dans les pays du sud de l'Europe que dans les pays du Nord, à quelques exceptions près, hein, comme le Portugal, qui a eu une approche beaucoup plus libérale de la question. Donc, sur la question du masque, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre l'incitation ou la persuasion d'un côté et l'obligation de l'autre. Je pense qu'il y a eu une hypothèse faite par les pouvoirs publics ou certains acteurs qui, à mon avis, était fausse, qui était de dire que si on commence à séparer le port du masque lieu fermé versus lieu ouvert, les gens n'ont plus rien à y comprendre, donc autant rendre le masque obligatoire partout, comme ça on simplifie les problèmes de compréhension. Je pense que c'est une hypothèse qui n'était pas vraiment fondée dans le sens où les gens avaient bien compris cette histoire de gouttelettes qui sont en suspension dans les espaces fermés et que l'effort d'éducation, à mon avis, aurait été suffisant et peut-être qu'on aurait pu ou dû limiter l'obligation aux endroits fermés par rapport aux endroits ouverts, ce qui est de nature, à mon avis, à renforcer le mouvement critique, y compris dans le champ scientifique. On voit bien
En même temps, pardonnez-moi, c'est le rôle des grosse gouttelette a été rapidement identifiée. Le rôle des aérosols dont on parlait tout à l'heure, lui, a mis plus longtemps à être identifié. Ça a pris plus longtemps.
C'est quelque chose qui est quand même, comme on le disait, hein, qui est connu depuis très longtemps.
Alors, en tout cas, par les pouvoirs publics français,
les pouvoirs publics français, mais si on reprend la littérature, par exemple, sur la grippe, on sait très bien, j'avais regardé, parce que j'ai eu très vite des questions autour de ce sujet-là, et que je ne suis pas un spécialiste de ça, moi j'ai fait la littérature scientifique, et j'ai vu que dans la grippe, les aérosols étaient considérés par pas mal de publications comme étant le vecteur, quoi. Et quand on regarde les modes de contamination qu'il y a eu, quand même toujours dans des lieux, soit des lieux familiaux, soit ce fameux rassemblement évangélique, etc., on voit bien que, et aussi dans les paquebots, etc., on voit très bien que le fait que les gens soient les uns sur les autres durablement dans des lieux mal aérés, ponctuellement, c'est pas bon.
Oui, mais pardonnez-moi, le fait d'être dans des lieux comme ça, confinés à plusieurs, ça nous expose autant aux gouttelettes qu'aux aérosols. Il me semble que la nouveauté, quand même, c'est que l'OMS ait reconnu cet été ou commencé à reconnaître le rôle des aérosols, c'est-à-dire de la contamination aérienne, ce qui n'était quand même pas le cas en mars.
Encore une fois, toutes ces différences dont tu as parlé entre taille de gouttelette, aérosol, gouttelette qui se traduit par une contamination maniportée, en fait, hein, c'est-à-dire que ces gouttelettes atterrissent sur les mains, voilà. Mais les aérosols, encore une fois, il y avait des publications sur la grippe hein, qui ont été faites dans le temps, mais alors, attendez, qui ont été peut-être moins mises en évidence. Mais
attendez, excusez-moi, l'OMS ne les avait pas lues, ces publications ?
Oh, je ne sais pas, moi je ne suis
pas... pourquoi ils ont découvert les aérosols pendant l'été ?
Ils n'ont pas... Non, mais... Il le connaissait, bon, évidemment, mais on ne va pas essayer de comprendre l'incompétence des gens. Le fait est que, je suis désolé, mais j'ai travaillé pendant 30 ans sur la grippe. Tout ça est extrêmement connu, mais il n'y a pas qu'un seul facteur. Les aérosols participent, les gouttelettes participent, le serrage de main participe, l'ensemble participe, d'accord ?
Donc pour vous, c'est par incompétence que... l'OMS a tardé à reconnaître le rôle de la transmission aérienne.
L'OMS a tardé surtout, je vais vous dire, nous sommes dans une sorte de confusion et essayons de revenir à des choses simples compréhensible. On ne va pas ajouter de la confusion à la confusion.
On va essayer, en tout cas.
C'est ça le but du jeu, on va dire. Ouais. Et donc, si vous voulez, ce genre de transmission par aérosol, c'est très connu depuis très, très longtemps. Mais il n'y a pas que ça. Et si vous voulez, bon. Ce qui est très, très étrange, c'est qu'on a appliqué des mesures.
On est en fait d'un virus nouveau aussi. On est sur un coronavirus qui n'est pas le virus de la grippe.
On parle de la transmission.
Et effectivement, il y a eu des études sur la transmission par aérosol du coronavirus qui sont apparues avant le moment de la reconnaissance par l'OMS. Il y a eu cette alerte, donc on voit... de 239 scientifiques pour que ce soit mieux reconnu dans les modes de transmission. Mais
ça, c'était en juillet,
l'OMS ne peut pas établir des préconisations sur la base d'autres maladies qui ressemblent.
C'est
pas scientifique.
C'est quelque chose d'important. Est-ce que l'OMS a été incompétente ou est-ce que l'OMS a raison, n'a pas voulu transposer à ce nouveau virus l'état des connaissances sur la grippe?
Je pense qu'effectivement, quand on a un virus respiratoire, en gros, on sait comment il se transmet. Alors après, la proportion, enfin, il y en a qui vont... Parce que bon, dans ces gouttelettes, il peut y avoir plus ou moins de virus. Selon le virus qu'on va avoir, est-ce qu'il y aura suffisamment de virus dans une gouttelette pour que ce soit réellement infectieux ou pas? Il y a plein de questions qui se posent. Ça, c'est des questions scientifiques.
Le savoir sur la grippe est transposable à
Y compris aussi le savoir sur la rougeole, qui est aussi un virus qui se transmet par aérosol et qui a un R0, le fameux R0 dont on parle beaucoup, qui est bien supérieur à celui de la grippe et du coronavirus, supérieur à 10, peut-être montant jusqu'à 20 dans certaines.
Bon, alors je voudrais qu'on en vienne aux statistiques et qu'on regarde de plus près les courbes que vous nous avez montrées, là, et peut-être d'autres aussi, qu'on commence à se poser la question à travers ces mots qui sont revenus très souvent depuis quelques semaines, Julie, la deuxième vague.
Voilà. Depuis l'été, et en particulier depuis août, la courbe des nouveaux cas détectés de coronavirus explose. Vous avez montré rapidement la courbe. Et donc, l'expression « deuxième vague » s'est plus que jamais imposée sur les plateaux de télévision.
Nous sommes au début d'une deuxième vague. C'est ce qu'affirme le chef du service de réanimation de l'hôpital de Garches.
Gare à l'automne, gare au début de l'hiver, une seconde vague est hautement probable.
Cette deuxième vague qui... quoi qu'on dise, et là.
Vous êtes pour le moment 77% à dire que non, l'hôpital public n'est pas prêt en cas de deuxième vague.
Alors, est-ce le signe de l'arrivée d'une seconde vague d'épidémie?
La deuxième vague, dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris, un risque bien intégré.
C'est la fameuse deuxième vague prédisiez ou vous annonciez. Non, c'est toujours la première.
Je crains que si la deuxième vague n'est peut-être pas aussi haute que la première, elle soit beaucoup plus longue.
Alors, Laurent Toubiana, sommes-nous dans la deuxième vague? Sommes-nous menacés d'une deuxième vague?
Bon, j'ai l'esprit un peu d'escalier. Donc, la maladie dont je parlais tout à l'heure, c'est bien évidemment la tuberculose.
D'accord.
Voilà. Donc,
c'est dit.
Alors maintenant, la deuxième vague, vous avez entendu, il y a du conditionnel. Beaucoup de conditionnels, beaucoup de suppositions. Et il s'agit en fait d'une théorie fondée sur des conjectures. Donc, moi... Ce que j'observe, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure.
C'est-à-dire, vos deux courbes ne disent pas la même chose l'une et l'autre. Elles disent même le contraire l'une que l'autre. C'est-à-dire que la courbe de la mortalité aurait tendance à nous dire qu'il n'y a pas de deuxième vague. En revanche, la courbe des nouveaux cas, la courbe orange, moi, je vois une deuxième vague. Je vois clairement une deuxième vague.
Oui, le seul petit problème, c'est que...
Attendez, elles ne sont pas cadrées, là.
Le seul petit problème, c'est qu'on ne compte pas la même chose. Là, ici, on compte... le nombre de personnes infectées par porteurs.
En orange. Mais on a l'impression d'ailleurs qu'on remonte quasiment au niveau
exactement.
Du pic. On remonte quasiment au niveau du pic.
Je vais vous montrer un tout. Oui, on remonte pratiquement au niveau où on était ici. Oui, c'est-à-dire qu'en mortalité, on est là. Or, à ce moment-là, on est là en mortalité. C'est-à-dire qu'on est au même niveau de porteurs. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça ne sert à rien de rester
au même niveau de contamination.
Non, de porteur du virus. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, ou très peu de malades. À l'heure actuelle, voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer.
Vous parlez des porteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien être des porteurs asymptomatiques, comme on dit.
Ou porteurs sains, on appelle ça aussi porteurs sains, mais c'est moins parlant.
C'est-à-dire ne développant aucun symptôme.
Aucun symptôme, mais Qu'a-t-on fait ? On est allé chercher, on est allé tester ces gens-là, on leur a fait une PCR, et cette PCR nous a dit, tiens, il y a des traces d'un virus chez cette personne. Alors, j'ai juste
sur ce point précis, Yves Godin.
Non. Alors, je suis complètement d'accord avec l'analyse des chiffres. C'est-à-dire que ce qu'on mesure à l'heure actuelle en nombre de cas, ce n'est pas ce qu'on mesurait en mars et en avril. Puisqu'en mars et en avril, on ne testait pas. Hein, on est bien d'accord. Et donc, tous les gens dans ce premier pic qui étaient montrés, hein, c'est des gens finalement qui arrivaient à l'hôpital ou qui consultaient. Bon, or, plein de gens n'ont pas consulté. Plein de gens n'ont pas été détectés. Donc, de toute façon, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Là, on est sur un taux de positivité des tests de l'ordre de 3,3%. On en fait 700 000 au mois de mars, je ne me souviens plus, mais
c'est
si on en...
Ben, alors, est-ce que ça veut dire, parce que c'est une question importante, est-ce que ça veut dire qu'on en trouve plus parce qu'on en cherche
bien
plus
sûr.
Est-ce que c'est la seule raison?
Julie. Ce n'est pas la seule raison, parce que, pareil, le nombre de tests, évidemment, a augmenté, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de cas détectés aujourd'hui. Mais en même temps, fin juin, 1% des personnes testées étaient positives. Aujourd'hui, on est à 3,8% des personnes testées qui sont positives. Ça monte jusqu'à 7% dans les Bouches-du-Rhône. Donc, de fait, il y a une augmentation réelle de la circulation du virus et du nombre de cas.
Laurent Toubiana.
Non, pas du nombre de cas, du nombre de porteurs. Il faut faire très attention.
Ce ne sont pas...
Ah bien. Dans une épidémie, il y a des malades, il y a des morts. Les porteurs du virus sains ne sont pas des gens malades.
D'accord.
Si vous testez...
On a un
virologue à côté de nous. Si vous testez n'importe quel virus, vous allez en trouver plein, des virus. C'est possible. Là, voilà ce qu'on a fait. Alors,
il faut faire simple, parce que l'anomalie de chiffres qu'on relève tous ici autour de la table est généralement expliquée par le fait, oui, mais ce sont des porteurs sains parce que c'est essentiellement des jeunes.
Exactement.
Bon, et que les jeunes ont moins tendance à développer les symptômes sévère de la maladie. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre que tous ces jeunes porteurs sains, quand ils vont rentrer dans leur foyer après les vacances, où ils se sont contaminés entre jeunes, contaminent les vieux?
Alors, deux choses. Effectivement, c'est une population plus jeune qui est porteuse. On sait depuis le début que dans les populations jeunes, le portage ne se traduit pas par des cas, puisqu'en fait, ils sont beaucoup moins malades, souvent asymptomatiques. Donc voilà, donc ça c'est clair. Mais le virus circule. Et on détecte quand même de plus en plus de porteurs. Voilà. Autre point aussi, le fait qu'on ait beaucoup de porteurs sans avoir des cas, c'est-à-dire des gens qui sont asymptomatiques, ça peut être lié quand même à quelque chose qui, je pense, est un petit peu négligé, c'est-à-dire le caractère saisonnier de toutes les infections respiratoires. Même si l'OMS a dit que ça n'avait pas l'air d'être le cas, si vous regardez, à l'heure actuelle, il est quand même majoritairement dans l'hémisphère sud, avec les exceptions des États-Unis et de l'Inde. De l'Inde, parce que les gens vivent les uns sur les autres, hein, d'accord, mais c'est les deux grosses exceptions. Et je pense qu'il y a un caractère saisonnier et qui est lié pas seulement au virus, parce que les gens, la chaleur, non, la température n'a rien à voir avec ça. On a parlé des aérosols. La stabilité des aérosols va varier en fonction des températures. Et un temps sec, c'est pas pareil qu'un temps humide, la même température, vous voyez. Et puis, surtout, notre système immunitaire est toujours bien meilleur l'été, en particulier le système immunitaire inné et les premières lignes de défense au niveau de la gorge et des voies respiratoires. Donc, on sait que quand on vous dit que vous avez eu un coup de froid, ce n'est pas ça qui vous a rendu malade, c'est que le coup de froid a fragilisé vos défenses immunitaires et donc vous a permis, par ailleurs, de développer la maladie parce que vous avez attrapé quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire s'il va y avoir une deuxième vague, on est très très loin. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est une augmentation des porteurs. On approche de l'automne et de l'hiver. Traditionnellement, parce qu'on n'a jamais regardé non plus les virus comme on a regardé ce virus, mais si on avait fait un suivi des virus pendant l'été, je pense qu'on verrait que les virus respiratoires continuent à circuler l'été, sans pour autant causer de maladie. La vraie crainte, c'est l'automne. Je ne dis pas qu'il y aura une deuxième vague.
Non, et moi, sur la contamination, entre jeunes et vieux, est-ce qu'on a des raisons aujourd'hui de penser que ce phénomène de contamination des vieux, c'est-à-dire plus fragile que les jeunes par les jeunes, a des raisons de ne pas se produire?
Alors, ce qu'on a vu, c'est que les enfants étaient de faibles contaminateurs. Mais là, on parle d'une population de 15-40 ans. Ce n'est plus des enfants. Donc là, il risque d'y avoir une reprise des contaminations, pas seulement les vieux. Mais il va y avoir au niveau des universités, au niveau des lycées, au niveau des transports. Je ne veux pas être inquiétant. Je dis, c'est là qu'il faut être vigilant et éviter que cette deuxième vague arrive. Et en plus, on va essayer de la lisser le plus possible pour ne pas avoir de saturation de nos systèmes hospitaliers.
Je vais répondre à tout ça. Je suis assez d'accord avec, avec le fait que, en effet, le système immunitaire a une moins bonne réponse en hiver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe tous les hivers avec les épidémies de grippe. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Maintenant, de là à dire que le coronavirus est équivalent à une grippe, je crois que ça, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. On pourra revenir largement là-dessus. Mais j'aimerais quand
Qu'est-ce qui vous en fait douter? Sur quel point en doutez-vous de la comparaison possible du coronavirus
et d'une simple. Grippe Primo, le coronavirus est arrivé en France pas en période hivernale, en fin de période hivernale. En France, c'est 1er mars, on va dire. Hein, c'est la fin de la période hivernale. Deuxièmement, ce virus circule toujours en zone tempérée à l'heure actuelle. Donc cette saisonnalité-là, j'ai beaucoup de doutes. Mais j'ai un autre argument. Un autre argument, c'est que finalement, le confinement nous a donné une expérience formidable. Parce que le confinement a fait en sorte de retarder l'arrivée retarder l'épidémie. C'était ce qui était, entre guillemets, vendu. Mais la théorie disait que dès le déconfinement, étant donné que 95% des gens n'étaient pas immunisés, le virus circulant toujours, il y aurait dû normalement avoir immédiatement une deuxième vague. Or, c'est une hypothèse très forte.
Enfin, moi, je n'ai jamais entendu ça affirmé avec autant de certitude.
Alors, je vous demande de revoir. Alors, non seulement ça a été dit très fort, ça a été publié, relisé, la publication de Ferguson, c'est écrit noir sur blanc.
Qu'est-ce qu'ils ont écrit?
Vous avez cité dans d'autres émissions le chiffre de 500 000 morts,
oui.
Et vous avez cité Ferguson, mais cette publication...
C'est-à-dire, 500 000 morts, c'est quoi? C'est ce qui était annoncé, c'est ça?
Par la modélisation de Ferguson, oui.
Ouais.
Oui, oui. Mais attendez, la deuxième vague ne date pas... L'idée de la deuxième vague, on reviendra là-dessus, mais l'idée de la deuxième vague ne date pas de cette période-là. Dès la fin de l'épidémie en Chine, il y avait déjà eu des épidémiologistes pour nous dire qu'il y aurait une deuxième vague. Donc cette idée de la deuxième vague n'est fondée sur, à l'heure actuelle, rien. On n'a jamais vu d'épidémie. Regardez les épidémies qu'on a connues. Imaginons le SARS, le H1N1, le MERS. Aucune de ces épidémies n'a eu de retour.
Enfin, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais la grippe espagnole, il y a un siècle, il y a une deuxième vague.
Vous dites une bêtise.
Oui.
Vous dites une bêtise, là.
Ah bon?
Oui.
Il n'y a pas eu de deuxième vague de grippe espagnole.
Il y a eu le tour de la Terre de la grippe espagnole, oui. Mais il n'y a pas eu de retour. Ça n'a duré. Sinon, on aurait eu tous les ans une grippe espagnole.
Sur ce point historique précis.
Alors, je suis virologue. Je serai prudent parce que je ne suis pas épidémiologiste. Il me semble quand même qu'en France, mais ça, je tiens ça de ma grand-mère, c'est qui est décédée.
Ah, si les références deviennent
mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a eu, plusieurs. De toute façon, elle a fait plusieurs fois le tour. Mais je suis d'accord aussi pour dire qu'on est biaisé parce qu'on regarde au niveau de chiffres mondiaux et qu'il faut faire attention justement à cette circulation. Et je ne suis pas assez compétent pour être précis sur ce point, donc je ne m'avancerai pas.
Donc vous êtes précis tous les deux et c'est très bien. Bon, donc si je comprends bien ce que vous dites tout le monde nous annonçait, tout le monde nous faisait des prédictions d'apocalypse et nous annonçait une deuxième vague.
D'ailleurs, vous participez à ça quelque part, puisque vous amenez là sur le plateau la grippe espagnole. Ça n'a rien à voir en termes de gravité. La grippe espagnole, c'est entre 50 millions et 120 millions de morts à une époque où on était moins de 2 milliards. Nous sommes 8 milliards et il y a 800 000 morts. Donc, il faut quand même garder un tout petit peu les proportions. Ouais. C'est important.
Non, mais c'est important. C'est important que vous le rappeliez, mais en même temps, si vous voulez, sur les mécanismes, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'on fait
des... Il n'y a pas eu plusieurs, comme pour la grippe. Et d'ailleurs, je vous signale que la grippe, au passage, ce n'est jamais le même virus. Ce n'est jamais tout à fait le même virus, c'est un mélange de virus. Et je termine là-dessus, la fameuse grippe espagnole a fait le tour de la Terre. Mais normalement, si c'était un virus saisonnier, on aurait dû le voir se répéter tous les ans, ce qui n'est pas le cas.
Alors, là, le virologue, là, il peut répondre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe chez les virus qui circulent, c'est ce qu'on, chez la grippe, il y a deux sortes. Il y a le glissement antigénique et la cassure antigénique. Toutes les grandes épidémies résultent de cassures antigéniques. C'est-à-dire que là, vous savez, en fait, le virus de la grippe, il a plusieurs protéines qui sont codées par des petits segments, et c'est un mélange de segments. Et il se trouve que à chaque fois qu'on a une cassure antigénique qui cause l'épidémie, le segment de l'hémagglutinine, c'est l'équivalent...
Attention là.
Ouais, voilà. C'est l'équivalent de la fameuse protéine S, la spicule du virus...
Non, là, vous m'avez perdu. Là. La différence entre glissement et cassure...
Alors, la cassure, c'est qu'il y a un échange. Il y a un échange. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a à la surface du virus est différent de ce qu'il y avait avant. D'accord. Donc, le système immunitaire est vierge.
Donc c'est pas le même virus, on peut dire
ce
ça.
Ce n'est pas le même virus.
Tandis que le glissement...
Alors, le glissement, c'est ce qu'on... Moi, je pense qu'on va observer, et ce qu'on observe avec beaucoup de virus respiratoires, c'est... Le virus évolue lentement, hein, parce qu'il est opposé à un autre système immunitaire, donc il accumule des mutations. Et effectivement, dans le cas de la grippe, bah, ce qu'on voit, c'est qu'après cette cassure, alors qui a eu lieu pour la grippe de 1918, pour la grippe asiatique de 57-58 et de Hong Kong de 68, à chaque fois, c'est une cassure. Et après, on a un virus qui circule, qui est légèrement différent. Mais la grippe, elle circule... Très légèrement différent, parce que accumulation de petites mutations.
Hein. Mais enfin, et donc, aujourd'hui, personne n'est capable de dire si notre virus d'aujourd'hui va se casser, va glisser.
Dans le cas des coronavirus, dans le cas de la grippe, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de recombinaison, parce que c'est des petits segments. Le coronavirus, c'est un seul génome. Donc là, c'est plus compliqué pour qu'on ait un phénomène de cassure. Il n'est pas exclu, mais c'est plus compliqué, ça passera par d'autres mécanismes.
Voilà une excellente information positive, parce que le spectre, il y a eu beaucoup de spectres fantasmés dans cette crise. Et le spectre de la mutation du virus, qui vient d'être infirmé à l'instant, risque, celui-ci, d'être éliminé.
Moi, je vais affirmer les grosses mutations, mais pas les mutations qui vont se produire lentement. Et c'est possible qu'à un moment, et c'est en fait ce qu'on espère, c'est que ce virus rentre dans la population en accumulant des petites modifications qui font qu'il est quand même un peu sensible à notre système immunitaire et qu'on a moins de cas graves et que finalement, ça devient à la fin un rhume banal.
D'accord. Voilà. Est-ce que je peux essayer de résumer simplement ce que j'ai compris de ce que vous dites, Laurent Toubiana? Vous nous dites, finalement, on a beaucoup agité le spectre d'une deuxième vague. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui qu'on est menacé d'une deuxième vague. Mais pardonnez-moi, il n'y a pas de preuve non plus que la deuxième vague soit exclue.
Oui, mais on peut...
Vous êtes d'accord ou pas?
On peut inventer n'importe quelle catastrophe pour pouvoir maintenir les populations. C'est, à mon avis, tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour essayer justement de juguler un phénomène. Mais on ne va pas avoir le spectre de catastrophe en permanence. Ça s'appelle du catastrophisme.
Mais est-ce que vous pouvez nous affirmer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de deuxième vague?
Non, je ne peux pas l'affirmer. Comment voulez-vous que j'affirme une chose pareille? Ouais. La nature est pleine de surprises. Donc non, je ne peux pas affirmer ça. En revanche, je peux essayer de comprendre le phénomène. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis le début, comprendre avec des éléments factuels, des observations, ce que fait un chercheur. Il a un questionnement, il a des observations, il applique des méthodes, il réfléchit, il a des conclusions qu'il diffuse. C'est ce que je fais.
Je voudrais demander le point de vue de Jocelyn Rhode. Que vous inspire le dialogue auquel vous venez d'assister là, entre deux scientifiques?
Bah, écoutez, c'est tout à fait passionnant et ça résume un peu l'état de la situation, qui est qu'on est face à une menace émergente, donc mal comprise, mal connue. Et en fait, ça, sur le plan psychologique, ça a un effet extrêmement puissant, c'est-à-dire que on a commencé à travailler sur la question du risque, de la réaction du risque en psychologie à partir des années 70, et on s'est aperçu qu'il y avait un paradoxe énorme qui était que, en fait, la peur était rarement proportionnelle au risque lui-même, tel qu'on pouvait le mesurer à base d'indicateurs épidémiologiques, par exemple. Et on s'est notamment aperçu qu'il y avait en fait deux facteurs qui étaient à l'origine de nos inquiétudes les plus fortes sur le plan à la fois individuel et collectif. C'est le niveau d'incertitude et de connaissance perçue de la maladie, et d'autre part, le niveau de contrôlabilité perçue qu'on a de ces mêmes maladies. Et donc, en fait, là, sur le coronavirus, on a la combinaison de ces deux éléments, si vous voulez. on a à la fois un virus qui est caractérisé par un très grand nombre d'incertitudes, notamment sur les paramètres épidémiologiques de base, ça a été bien résumé ici. Et puis, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, qu'on ne voit pas et qui est difficilement maîtrisable et contrôlable, parce que justement, on n'en a pas la perception immédiate par nos sens. Et on voit que quasiment tous les phénomènes d'émergence à travers l'histoire, depuis la fin du XIXe siècle, ont été corrélés à des grandes vagues d'inquiétude, voire de panique, dans la population. Et on en a un petit peu mesuré l'ampleur au début de l'épidémie, parce qu'on a vu que des gens commençaient à mettre en place des comportements aberrants, par exemple à faire des réserves de nourriture, ou dans certains pays à acheter du papier toilette, ou des armes à feu, par exemple aux États-Unis. Donc on voit comment ces phénomènes émergents peuvent susciter des inquiétudes, voire des phénomènes de panique dans les populations, qui sont eux-mêmes extrêmement préoccupants par leurs effets, et qui peuvent générer ces paniques qu'on qualifie de paniques rationnelles, en fait.
Oui, ces paniques ne sont pas arrêtées, elles continuent toujours, et finalement... ça suit la sagesse, quelque part la sagesse populaire. In dubio pro malo, c'est sorti de. C'est ancionas dans le principe de responsabilité.
Vous pouvez traduire
Oui, en période d'incertitude, craint le pire. Donc cette crainte, elle est évidente parce que le risque que l'on a à ne pas croire à une information négative est tellement gigantesque par rapport au risque de croire à une information positive, que tout le monde se rétracte sur ses peurs, sur ses craintes. Et effectivement, en période d'incertitude, la crainte part exactement comme une épidémie. Or, c'est sur ce mode-là, toute la population est dans cette espèce de psychose. Pourquoi ? Parce que les incertitudes... En ce moment, nous ne sommes pas dans l'incertitude. Nous parlons entre scientifiques... Et nous discutons de résultats. C'est une chose.
Oui, enfin, en soulignant quand même tous les points incertains. Oui, Julie, vous voulez dire quelque
chose ? Je n'ai pas terminé. Hein. Mais bon, oui. On veut.
Oui. Julie.
Je voulais dire quelque chose. Pardon, je crois que je voulais prendre la parole.
Oui, excusez-moi. Écoutez, ce principe-là est extrêmement connu, extrêmement décrit. Ces mécanismes cognitifs le sont. Et. Malheureusement, nous sommes là en plein dedans. Et ce que je cherche à faire, c'est apporter de l'information tangible, apporter de l'information scientifique pour essayer d'arrêter, de calmer, comme les rumeurs, si
Mais
vous voulez.
Pour répondre à ça, l'enjeu, il n'est pas uniquement sur les personnes. C'est-à-dire que là, on est dans un enjeu aussi de politique publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les pouvoirs publics ne prévoient pas des cas graves et des cas... Justement, c'était pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et les prévisions de Neil Ferguson, qui prévoyait effectivement un nombre de morts important. Je m'appuie sur quelque chose que vous n'avez pas dit là, mais que vous avez dit sur d'autres plateaux, de 500 000 morts.
C'était en février-mars.
C'était en février-mars.
Juste avant le confinement.
Avant le confinement. Et c'était les prévisions sur ce qui pouvait se passer dans le pire des cas et en l'absence de toute politique publique. Le rôle des politiques publiques, c'est d'éviter justement d'en arriver à ces cas-là.
Alors justement, à propos des politiques publiques, moi je voudrais qu'on en vienne maintenant aux politiques publiques et qu'on en discute une seconde. Bon, là, nous parlons, on est vendredi 28 août. Donc, vient d'être annoncée hier l'obligation du port du masque, notamment dans la ville de Paris, partout dans la ville de Paris. Cette mesure a été précédée, on va dire, d'autres mesures moins catégoriques tout au long de l'été, Julie.
Oui, tout à fait.
Ce n'était pas partout que le port du masque allait être obligatoire.
Oui, ces derniers jours, ces dernières heures même, on a eu une multiplication de mesures fortes. Donc le masque est obligatoire partout à Toulouse, en extérieur y compris, depuis vendredi dernier, à Marseille depuis avant-hier, où les bars et les restaurants ferment aussi à 23h. Et depuis ce matin à 8h, il est obligatoire également partout à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et dans la Seine-Saint-Denis. Avant ça, pendant l'été, il y avait eu quand même un festival de mesures plus partielles et évidemment, ça a donné du grain à moudre aux journalistes.
Les 20 arrondissements de Paris sont concernés. Mais la règle peut changer d'un trottoir à l'autre.
Tous les Champs-Élysées ne sont pas concernés par cette obligation du port du masque. Par exemple, là, je traverse à mi-chemin, eh bien, je peux enlever mon masque parce que je me dirige vers la partie basse des Champs, là où il n'y a pas de magasin.
Toutes les rues ne sont pas concernées par la mesure. Ici, sur cette place commerçante, il vous faudra obligatoirement porter un masque. Mais il suffit de traverser et de se retrouver ici pour ne plus avoir à porter un masque.
il reste des zones complexes. Par exemple, ici, sur cette portion de route, eh bien, le masque n'est pas obligatoire. Mais si je décide d'aller en haut, vers le canal Saint-Martin, il l'est, derrière moi également. Mais par ici, eh bien, je peux m'en dispenser.
Alors, bon, on voit bien, de toute façon, depuis le début de la pandémie, c'est la même chose. Quand les autorités prennent des mesures radicales, il leur est reproché de prendre des mesures trop radicales, des interdictions trop radicales. Et quand c'est des mesures plus subtiles et plus nuancées, on voit bien que toute la presse s'amuse avec la rue où le masque est obligatoire à gauche et il ne l'est pas à droite. Quel est le regard que vous portez, vous, à la fois sur ces politiques publiques et sur la manière dont elles sont accueillies ?
En fait, la première chose, c'est que je pense que, dans le doute, il est nécessaire d'être vigilant. On ne sait pas si le virus va circuler. Ce qu'on sait, c'est que si il n'y a pas ces histoires de protection croisée, ne sont pas très évidentes. Donc en fait, le virus, la population globalement, alors est-ce que c'est 10, 15%, 20% de la population ? Mais il reste encore un très grand nombre de gens qui sont susceptibles d'avoir le virus. Peut-être qu'ils ne l'auront pas. Et l'autre point, c'est que pour l'instant, les évidences que le virus se serait atténué n'existent pas. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'évidemment, il faut être vigilant. Donc c'est normal de prendre des mesures. Et je pense qu'on en voudrait au gouvernement si jamais il ne prenait pas de mesures et qu'on basculerait. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait des mesures de prise. Il faut les prendre de façon...
Non, pas forcément, pardonnez-moi, pour des raisons strictement scientifiques, mais juste parce que le mot n'a pas encore été prononcé sur ce plateau, par principe de précaution.
Par principe de précaution, je pense qu'on ne sait pas et donc on va attendre. Par contre, je pense qu'on va le savoir assez vite. C'est-à-dire que si, alors quand je dis assez vite, moi je dirais c'est au 15 novembre on saura. Au 15 novembre on saura.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'on saura ?
Non, parce que si ces chiffres, voilà, ce qu'on va voir, c'est soit on n'a plus que des contaminations de type asymptomatique, et là il sera passé quelque chose, il faudra analyser ce qu'est le virus, il faudra analyser ce qu'on n'a pas touché finalement toute la population susceptible au premier tour, ce que je ne crois pas du tout. Mais donc il y a des choses qu'il faudra essayer de comprendre, mais... On va voir, moi ce que je pense, c'est qu'on va voir, on a quand même les gestes barrières. Donc, le R0 de 3, parce que rappelez-vous en mars...
Le R0, c'est...
Oui, c'est le nombre de... Alors, l'épidémiologiste l'expliquerait mieux que moi.
Oui, je trouve que c'est une imbécilité, donc...
Mais, avant de dire que c'est une imbécilité, c'est quoi ? Non,
disons que c'est le nombre moyen de personnes qui sont contaminées par un malade. Voilà.
Alors, évidemment. Donc, s'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'un
malade.
S'il
est supérieur à 1, on est dans une progression de type géométrique.
Ça veut dire que.
Dans tous les cas, on est dans une progression de type géométrique, mais dans un cas, ça monte très vite. Dans tous les cas, c'est géométrique et exponentiel, mais dans un des cas, on est exponentielle décroissante. Voilà.
Bon, alors, si je vous ai bien compris, en fait, quel que soit votre refus d'être trop pessimiste, si vous voulez, vous êtes globalement d'accord avec Yves Godin. C'est-à-dire, vous nous disiez au début de l'émission, scientifiquement, je ne considère pas que je doive porter le masque que je porte là aujourd'hui, mais cela dit, le bon citoyen que je suis le porte parce qu'on me le demande.
Donc oui, finalement, moi,
le bon citoyen que vous êtes admet le principe de précaution.
Franchement, ce serait réduire mon discours à quelque chose de bénin, si vous voulez. Je le porte effectivement parce que je suis discipliné, mais au fond de moi-même, je le porte aujourd'hui parce que je suis discipliné, au fond de moi-même, il y a trop de bêtises qui ont été dites sur tous les points. Il serait très difficile, si vous voulez, dans un débat comme celui-ci, de reprendre... Oui, je vais essayer d'y répondre. Excusez-moi, mais c'est difficile parce que ça part dans tous les sens. Et donc, j'essaye de me remettre non, mais
alors, les
peu.
Bêtises, vous en avez dit une. Vous avez parlé de la fameuse prédiction des 500 000 morts. Que le
ça, c'en est une.
Voilà.
Il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres. Sur ce... par exemple, le lissage de la courbe épidémique. J'ai fait de la modélisation pendant des années. Je n'ai jamais vu ça.
Ça, c'est une bêtise. Alors, elle a été dite par qui et elle concernait quoi exactement?
À l'instant, là. R0, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à calculer. Sûr. C'est un résultat, le R0. Ça n'entre pas dans le mode de compréhension de la diffusion épidémique. Dans la diffusion.
Pourquoi ? Parce que R0, on a beaucoup entendu ça.
Oui,
aussi
justement,
depuis le début de l'épidémie,
on utilise un concept extrêmement compliqué.
Et pour vous, c'est un indicateur non pertinent ?
C'est pas le bon indicateur. En tout cas, c'est pas le bon indicateur. Le bon indicateur.
Pourquoi c'est pas le bon indicateur ?
Parce qu'il fait très peur. C'est le gros problème. C'est un résultat compliqué à calculer et qui est un résultat final. C'est-à-dire qu'on peut calculer ça. D'abord, c'est pas un R0, hein, c'est un R2T. Il va falloir quand même.
C'est le nombre de personnes qu'une personne contaminée contamine.
Oui, ça c'est facile à comprendre.
Oui.
D'accord.
Alors pourquoi c'est pas un bon indicateur pertinent?
Parce que c'est difficile à calculer et que ce... oh, une seconde, je vais vous dire. Les modèles qui ont été utilisés sont des modèles dynamiques. Ces modèles dynamiques ont une capacité non linéaire, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement sensibles aux paramètres et donc normalement on doit faire une analyse de sensibilité. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ici,
Yves Godin, c'est vous qui nous avez sorti le R0 sur ce plateau. C'est pertinent ou c'est pas pertinent?
Bon, moi, je pense que c'est quand même pertinent parce que c'est quand même un indicateur. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est simple. Le plus simple, c'est de constater que le nombre de cas détectés à l'heure actuelle de façon hebdomadaire. Alors, on est deux cas symptomatiques ou asymptomatiques, hein, détectés de façon hebdomadaire augmente. Là, chaque semaine, voilà. Alors après, on peut regarder à peu près le rapport et on voit ce que ça donne. Et c'est pas lié à l'augmentation des tests à l'heure actuelle. C'est la seule chose qu'on peut dire. Voilà. Mais ce sont des cas asymptomatiques. Voilà, ce sont des porteurs.
Vous voulez nous montrer une carte de France,
oui,
Laurent Toubiana. Alors, est-ce que vous pouvez
la montrer? Cette carte de France, oui. c'est la carte des centres de détection de ce que l'on détecte à l'heure actuelle. 3% des gens testés font une forme asymptomatique de la maladie. C'est-à-dire
que nous apprend cette carte. Alors moi, ce que je vois sur cette carte, c'est que effectivement, les centres de test sont concentrés autour des bassins de population importants, la région parisienne, la région du Nord. Et c'est la vallée du Rhône.
C'est corrélé à la population, parfaitement. Non, ce que je voulais montrer ici, c'est que c'est énorme.
Donc tout va bien.
Si vous voulez. Oui, mais tout va bien, sauf que ça arrive après l'épidémie. Ça sert à quoi de tester les gens après la... Qui va se faire tester? Pourquoi a-t-on mis un truc comme ça maintenant, alors que l'épidémie est passée? Il fallait mettre un système comme ça.
Il ne faut pas tester les gens aujourd'hui, je comprends
comment
pas. Il ne faut pas tester les gens aujourd'hui?
À l'heure actuelle, vous allez tester, et qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas de malades, on voit des gens porteurs, mais ces porteurs sont sains.
Vous êtes en train de nous dire qu'on teste trop aujourd'hui.
Oui, oui, bien sûr. Oui, on teste énormément.
On teste trop.
Après coup, si vous voulez.
Après coup, ou avant coup, si la deuxième vague arrive.
Mais si la deuxième... Et si, à l'heure actuelle, il n'y a pas de deuxième vague? Je vous ai expliqué qu'il n'y en a pas. Et s'il y avait une deuxième vague,
vous étiez incapable de dire qu'il n'y en aurait pas dans les mois qui viennent.
S'il y a une deuxième vague, ce ne sera probablement pas dû à ce virus-là, parce que pour moi, il existe une histoire naturelle d'une épidémie. Ça existe. Les épidémiologistes connaissent ça. L'histoire naturelle d'une épidémie, c'est une phase ascendante qui a duré 4 semaines. Je l'avais prévu au tout début. Hein. Une phase descendante qui dure 4 semaines. Et puis après... il y a des cas sporadiques qui se terminent. Ça, c'est une épidémie.
Vous l'aviez prévu, mais vous l'aviez prévu en prenant en compte justement les mesures qui ont été mises en place?
Les mesures, alors il ne faut pas confondre, il y a une grosse erreur, c'est confondre corrélation et causalité. Que deux événements soient corrélés ou arrivant en même temps, ne veut pas dire que l'un est la cause de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a mis en place...
Quand on confine toute la population d'un pays pendant plusieurs mois, là, on peut se dire
c'est ce que vous croyez. Est-ce que vous êtes capable de le démontrer?
Alors, je pense que si on regarde...
Sur le « on teste trop », moi, j'entends ce que vous dites, mais je dois dire, je l'ai assez rarement entendu. Mmh. Yves Godin, vous trouvez aujourd'hui aussi qu'on teste trop?
Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de tests de convenance. C'est-à-dire que les gens font voir leur famille et décident de dire, bah, je vais quand même faire le test. Je pense que... c'est une préconisation. Moi, je pense qu'il faut réserver les... Alors, d'abord, même si c'est 3% de tests, c'est vrai, on a beaucoup de gens faiblement symptomatiques, encore une fois, mais ce n'est pas la même population que celle qui était quand même touchée au moment du pic. Hein, donc, c'est moins symptomatique, mais il y a quand même des gens qui ont des symptômes. Hein. La perte du goût et de l'odorat, elle se maintient. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une petite maladie, mais bon, effectivement, c'est pas ça. Et c'est, voilà. Mais Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de tests. On voit 700 000, mais de toute façon, 3 jours après, vous pouvez avoir été contaminé. Donc, en fait, je pense qu'effectivement, on est un petit peu dans l'excès. Il faut réserver effectivement cette capacité de test. Moi, je pense au cluster, aux proches, et peut-être au second rideau, on va dire. Voilà. À partir de là, au second cercle, pardon. Et à partir de là, je pense qu'on aura une vision correcte. On n'est pas dans... Ouais, voilà.
Jocelyn Rode. C'est cette phrase qui, je dois dire, moi, me surprend parce qu'elle est à contre-courant de tout ce qu'on entend habituellement.
Moi, je dis des choses à contre-courant de tout ce qu'on entend.
Et vous êtes
et
là.
J'essaye de le démontrer.
Et vous êtes là pour les dire, mais je suis aussi là pour exprimer ma surprise.
Vous avez raison.
Et contre-checker ce que vous venez de nous dire, Jocelyn Rode, cette phrase, on teste trop.
Bah, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, du coup, on voit à quel point, en fait, les Français ont été coopératifs dans cette affaire, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on leur dit « testez-vous si vous avez un doute, testez-vous si vous allez voir des personnes à risque, etc. » Donc, il y a eu plutôt une vague ou un mouvement dans la population qui a consisté à appliquer des recommandations qui ont pu être posées à un moment donné, et que peut-être, effectivement, il faut réfléchir sur le bon usage de ces tests, parce que ce qu'on oublie, c'est que tout ça a quand même un coût économique qui n'est pas négligeable, et qu'il faut peut-être réserver ces tests là où ils sont les plus utiles. Donc je pense que le débat est en train d'évoluer, on voit comment on a des flux et des reflux sur les recommandations, qu'elles soient pour le masque ou pour les tests, et que ça, c'est encore une fois de nature à évoluer. Alors, moi, je voudrais dire quand même quelque chose par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt. Il y a une variable qui est quand même extrêmement importante et qui est peu discutée, qui est le fait qu'on a beaucoup, beaucoup modifié nos comportements collectifs depuis 6 mois. Lorsqu'on regarde, en fait, par exemple, les données de mobilité des gens, lorsqu'on regarde la fréquence des interactions sociales, eh bien, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que ça a drastiquement chuté à partir du mois de mars, et que ça a tout doucement repris à partir du mois de mai, à la fin du confinement, mais avec un retard très important par rapport à la courbe épidémique, et qu'à partir du mois de juin, un peu du mois de juillet, les interactions sociales ont bien repris, en particulier chez les jeunes. Et là, on peut aussi essayer de comprendre comment l'épidémiologie purement clinique peut être insuffisante pour comprendre ces phénomènes, mais qu'on peut aussi faire appel à l'épidémiologie sociale, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les gens agissent, interagissent, pour essayer de comprendre en fait ces dynamiques épidémiques. Et à mon avis, un paramètre qui manque, c'est celui-là, c'est comment nos comportements évoluent. Alors, si on compare la situation actuelle avec les situations passées, ce qu'on peut voir, c'est que le plus souvent, en fait, les changements de comportement collectif sont davantage corrélés à la médiatisation du problème qu'à son incidence ou, par exemple, au nombre de décès. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle l'heuristique de disponibilité en psychologie, c'est-à-dire qu'on infère, en fait, du niveau d'information ou de communication qu'il peut y avoir sur un sujet, la gravité ou l'importance d'un problème. Et ce qu'on est en train de voir là depuis le début, c'est qu'il y a des pics de médiatisation de l'épidémie qui correspondent parfois à des événements épidémiologiques, mais pas toujours, et que les comportements de prévention, notamment l'utilisation des mesures barrières, elles suivent assez bien, en fait, dans sa dynamique, la médiatisation du problème qui elle-même est en partie dépendante de certains paramètres épidémiologiques. Donc il peut y avoir des phénomènes qui sont contre-intuitifs, et qui tiennent au fait qu'on est plus sensible en fait, à la communication sociale qui s'opère sur le virus plutôt qu'à ses paramètres épidémiologiques.
Bien, écoutez, je vous remercie tous les trois. On arrive à la fin de cette émission qui est évidemment trop courte. Hein. On aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, mais enfin, on espère tout de même avoir commencé à contribuer à clarifier les choses dans l'esprit de nos abonnés. Merci à nos trois invités, mais... ne nous quittez pas tout de suite, puisque vous attend une surprise de fin d'émission. À tout de suite. Alors, je vous avais promis une surprise en début d'émission, chose promise, chose due. Voici la surprise, ou plutôt deux surprises. Alors, la première surprise est une demi-surprise, c'est Emmanuelle Walter, notre rédactrice en chef bien-aimée.
Bonjour à tous.
Et la deuxième surprise est une vraie surprise, c'est Nassira El Moadem. Alors, ce qui nous réunit tous les trois sur ce plateau aujourd'hui, c'est qu'à partir de cette saison, et ça c'est encore une surprise, je ne serai plus seul à incarner chaque semaine l'émission d'Arrêt sur image. C'est une responsabilité que nous partagerons à trois avec Emmanuel et avec Nassira, parce qu'il faut bien varier un peu les plaisirs. Alors là, vous êtes sans masque, vous succédez sans masque à une émission qu'on a tournée pendant plus d'une heure avec des masques. Mais c'est juste pour qu'on vous voit un peu et que les abonnés vous voient, mais je vais être obligé de vous demander de les remettre, puisque, a priori, a priori, un certain nombre d'émissions de cette nouvelle saison vont être tournées avec des masques. Enfin, on ne sait pas encore. Ce qui est d'ailleurs une innovation, Nassira, que tu as accueillie sans plaisir particulier.
Et en même temps, et ça rebondit sur l'émission que tu viens d'animer, ça fonctionne, quoi. Quand on regarde la télé et qu'on voit des gens masqués, moi, je ne suis pas choquée. Quand je vois des journalistes, des confrères faire des plateaux à l'extérieur, en plus, avec toute l'ambiance qu'il peut y avoir, des voitures, etc., ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
OK. Donc, l'émotion, la colère...
Si, évidemment. Mais voilà, s'il faut se conformer, on se conforme.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter en une minute Alors, aux gens qui t'ont d'ailleurs déjà vu à plusieurs reprises sur le plateau de l'émission.
Oui, exactement. Mais je suis venue à au moins deux reprises. Alors, une émission sur la formation en journalisme avec des représentants des écoles de journalisme et la fameuse émission qu'on avait réalisée dans le bar PMU de Sevran. On va bientôt dire le feu bar PMU puisqu'il va fermer.
Ah oui, oui. Ah. Alors, le fameux bar PMU dans lequel France 2 avait affirmé que les femmes étaient interdites, et l'enquête du Bondy Blog que tu avais effectuée à l'époque avait démontré que ce n'était pas vrai, que c'était totalement bidon.
Voilà. Exactement. Donc, moi, je suis journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé à la télévision au tout début, puisque c'est ma formation initiale, à iTélé, au groupe Canal+, et puis à France 2 pour l'œil du 20h. Et ensuite, j'ai dirigé le Bondy Blog pendant un peu moins de 3 ans, jusqu'en 2019. Pour lequel j'ai fait effectivement cette fameuse contre-enquête au bar de Sevran, et journaliste indépendante depuis, travaillant pour diverses publications et autrice.
Voilà. Alors, autrice d'un livre, alors je peux dire qu'il est excellent parce que je l'ai lu, enfin je le dis vraiment parce que je le pense, ça s'appelle « Les filles de Romorantin », puisque tu es originaire de Romorantin.
Dans le Loir-et-Cher.
Dans le Loir-et-Cher, d'une famille ouvrière de Romorantin. Et donc, dans ce livre, tu es partie aujourd'hui, enfin au moment des Gilets jaunes, tu es partie à la recherche de tes copines d'adolescence et d'enfance.
Exactement, pour comprendre ce qui était devenu Romorantin. Depuis que je l'ai quitté, petite ville qui a été largement périclitée par la fin d'une usine Matra Automobile. Voilà.
Bon, mais tu ne viens pas à Reste sur Image pour faire des émissions sur Romorantin.
Non, j'aimerais.
Tu traiteras d'autres sujets de Romorantin.
Absolument.
On trouvera peut-être un sujet qui...
J'en suis sûre.
Il y aura peut-être un sujet sur...
Pourquoi pas. J'ai réfléchi.
Sur Romorantin. Qu'est-ce qui te met en colère dans les médias?
Beaucoup de choses. D'abord, peut-être une sorte d'uniformité, d'uniformisation, je trouve. Alors même qu'on est face quand même à une pluralité... de sources, de supports, des invités qu'on voit souvent régulièrement partout. J'ai noté, là ce matin, je me faisais la réflexion de la matinale, par exemple, de Jean-Jacques Bourdin, où depuis une semaine, depuis la rentrée, bon, sur les 5 invités par Jean-Jacques Bourdin, les 5 sont des hommes. Donc cette question de la parité, cette question de la diversité des invités, elle m'est importante. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire et à améliorer sur ce sujet. Donc voilà. Et puis l'idée aussi, c'est peut-être aussi d'élargir toutes ces questions liées effectivement aux médias sur ce plateau avec vous.
Alors, Emmanuel, on n'est pas vraiment dans la même situation. Hein. On se connaît depuis 23 ans. Et depuis 23 ans, on se vouvoie d'ailleurs.
Oui, c'est comme ça. Il va falloir accepter cette situation.
Il n'y a pas d'explication particulière. Alors, vous êtes par ailleurs rédactrice en chef d'Arrêt sur Image, et donc l'émission va tourner comme ça à trois.
Voilà. Alors, Daniel va faire a priori 2 émissions par mois, et Nassira et moi une émission par mois. Donc, on va tourner, mais ce ne sera pas non plus toujours comme ça, mais enfin, on va essayer d'alterner de cette manière-là. Et donc, c'est la parité, disons-le.
Hein. Plus même, non?
Voilà.
Ça dépend si c'est en nombre ou en nombre d'émissions. Qu'est-ce qui vous met en colère dans les médias, Emmanuel ?
Beaucoup de choses, mais j'avoue que là, cette fin d'été, j'ai été très impressionnée par l'extrême droitisation de certaines chaînes d'infos en continu. Je trouve ça super inquiétant. J'avais l'impression qu'on était déjà rendu assez loin dans ce mouvement-là, mais on dirait qu'on peut faire toujours plus. Il y a un article qui vient de sortir sur Arrêt sur Image, qui est un excellent média à ce sujet. Excellent article qui a mis les syndicats de police très, très en colère, d'ailleurs. À la fois, il y a évidemment l'article sur le monsieur de LCI qui est un ancien conseiller de Marion Maréchal Le Pen, mais aussi d'ailleurs dans un autre style, ce qui a très énervé les syndicats de police, c'est c'est la journaliste d'Europe 1 qui est devenue commissaire de police. Alors je trouve qu'on est vraiment là dans notre...
Et qui a continué à couvrir la police pendant plusieurs mois.
Et qui continue à couvrir la police alors qu'elle est...
Alors qu'elle avait passé le concours de commissaire.
Qu'elle est déjà finalement commissaire dans les faits statutairement. Voilà. Donc c'est toutes ces déviances-là que j'ai très envie de continuer à raconter sur notre site.
Bon, et vous savez quoi? Moi, j'ai super envie de voir vos émissions. Voilà, et je les regarderai.
Bon, on espère qu'on sera à la hauteur.
Ça commence la semaine prochaine, ce sera toi.
C'est ça, ça commence la semaine prochaine, vendredi prochain, et ce sera donc pour démarrer ce nouveau...
On ne dit pas le sujet.
Trinôme, on dit trinôme ?
On peut dire trinôme, on peut dire tout ce qu'on veut. Voilà.
Et on ne dit pas le sujet.
Et on ne dit pas le sujet, mais ça va décoiffer. Oui. Merci à toutes les deux.
Merci
de nous avoir suivis, et donc à la semaine prochaine avec Nassira El Mohanem.
À la semaine prochaine.